La construction du sous-marin, commencée depuis 6 mois à peine, était poussée avec une activité fébrile. Il était presque terminé. Les chantiers s'élevaient au fond du golfe de la Girolata, dans la Balagne déserte, la partie la plus sauvage de la Corse. Ce n'est qu'après de mûres réflexions que le milliardaire norvégien s'était décidé à choisir cet emplacement. Il n'ignorait pas que tous les grands ateliers et toutes les grandes usines françaises sont infestés d'espions industriels qui ont vite fait de s'emparer d'un procédé nouveau, d'un perfectionnement intéressant, qu'ils se hâtent d'aller vendre à quelques puissances étrangères. À la Girolata, Ursenström aurait son personnel en main, la surveillance serait beaucoup plus facile et les indésirables seraient promptement reconnus et congédiés. Goël, aussi bien que son mécène, tenait beaucoup à ce que les merveilleuses inventions du Jules Verne ne pussent être utilisées dans une guerre mondiale par des impérialistes sans scrupules. L'entrée de ce golfe est dessinée par 2 promontoires abrupts, à la pointe desquels 2 vieilles tours en ruine du temps des Sarrasins semblent avoir été placées comme 2 sentinelles avancées. Au fond s'étagent les pentes de la montagne, couvertes d'olives sauvages, d'amandiers et de châtaigniers. Au-delà commence le maquis, fouillis inextricable de plantes et d'arbustes, où croissent pêle-mêle les cistes, les arbousiers, les gélévriers, les myrtes, les ronces et des labiers de toutes sortes. Et c'est au pied de cette montagne, au milieu d'une véritable forêt d'eucalyptus, plantée par Ursenström pour assainir cette côte ravagée par la malaria, que s'élevait la villa du Norvégien. La rustique habitation était entièrement démontable et pouvait être ainsi transportée suivant le bon plaisir de son propriétaire. Pendant que Goël Mordax et Ursenström stimulaient le zèle des travailleurs, M. Lepic, lui, explorait le maquis, sa boîte verte en bandoulière, son filet à papillons sur l'épaule. Quelquefois, Edda et Goël se joignaient à lui dans ses excursions, mais le plus souvent, il était accompagné seulement de Mademoiselle Segui, que les distractions et la naïveté presque enfantine du naturaliste amusaient follement. Il n'était pas de mauvais tour qu'elle ne lui jouât, mais M. Lepic supportait ses taquineries avec placidité. Un jour pourtant, il faillit se fâcher. Au cours d'une promenade, Hélène eut la malice de faire asseoir le naturaliste sur une fourmilière. En un clin d'œil, il fut couvert d'insectes. La jeune fille, tout en se mordant les lèvres pour ne pas rire, consolait hypocritement l'infortuné naturaliste. « Mais vous avez donc juré ma mort, mademoiselle » s'écria-t-il tout à coup avec un accent tragique. « Ma foi non, monsieur Lepic, vous vous effrayez de bien peu de choses. » Et à la grande joie de la jeune fille, monsieur Lepic paraissait très effrayé. « Mais savez-vous, mademoiselle, reprit-il gravement, que la piqûre de ces insectes est quelquefois mortelle. Les habitants de ce pays le savent bien. Ils appellent cette fourmi « innafantato » et la craignent autant que le scorpion. » Mademoiselle Segui ne riait plus. Elle aida le naturaliste à se débarrasser des fourmis. Mais M. Lepic se vengea. Pendant 3 heures, il fit à son gentil bourreau un cours complet de myrmécologie, tellement hérissé de termes barbares que la jeune fille lui demandait grâce. Mais M. Lepic demeura inflexible, comme la destinée. « Je finis à l'instant, » dit-il. Et il parla encore pendant 1 heure. Les ateliers s'élevaient à quelque distance de la villa, à l'extrémité d'une petite plage. 100 d'ouvriers y étaient employés. Tous avaient pris l'engagement de ne pas quitter la Corse avant l'achèvement du sous-marin, les détails de sa construction et la date de ses essais devant rester secrets jusqu'à nouvel ordre. C'était pour la plupart des Français et des Italiens. Les autres, ou une dizaine environ, étaient anglais ou américains. Parmi ces derniers se trouvait un contremaître nommé Robert Knipp, qu'Ursenström avait embauché sur la recommandation de l'ingénieur américain Holland. C'était un homme dans toute la force de l'âge, à la fois robuste et intelligent. En dehors des heures de travail, il parlait peu et s'isolait volontiers. Jamais on ne l'avait vu prendre une goutte d'alcool. Ursenström et Goel étaient très satisfaits de ses services et d'avance ils regrettaient d'être obligés de le congédier après le lancement du Jules Verne. C'est Ursenström qui avait exigé que le sous-marin portât le nom du romancier dont les ouvrages avaient charmé sa jeunesse. Le Norvégien se plaisait à raconter qu'étant enfant, la lecture de 20 000 lieues sous les mers l'avait enthousiasmé et que les prouesses du capitaine Nemo et du Nautilus l'avaient plus tard décidé à s'occuper de navigation sous-marine. C'est un hommage dû à ce romancier, dont les ouvrages sans prétention ont tant fait pour la vulgarisation des sciences, disait Ursenström. Goel eût préféré donner à son navire le nom de la fille du Norvégien, mais il avait fallu s'incliner devant la décision de M. Ström. Edna s'intéressait vivement aux travaux de l'ingénieur, qu'elle accompagnait souvent aux ateliers de construction. Sa sympathie pour Goel Vordax augmentait de jour en jour. Ce n'était pas encore de l'amour, mais il y avait entre les deux jeunes gens une parité de goût et de sentiment qui ne devait pas tarder à se changer en un sentiment plus tendre. D'ailleurs, si Goel Vordax évitait toute allusion aux paroles d'Ursenström au sujet du mariage de sa fille, M. Lepic était moins réservé. « Eh bien, grand homme, lui demandait-il parfois quand il se trouvait seul avec son ami, quand maries-tu? À quand la noce? Veux-tu le savoir, car il me faut un habit neuf. » Et tout en parlant, il secouait sa grande houppelande d'où montait un nuage épais de poussière au relent de naphtaline. Goel haussait les épaules et répondait invariablement, « Mais laisse-moi tranquille. Va donc tenir compagnie à Mademoiselle Segui. Allez, va faire ton petit Hercule, là, au pied d'Omphale. » Pourtant, depuis quelques jours, le caractère si gai et si franc d'Edna Ström paraissait se modifier. Inquiète et nerveuse, elle restait de longues heures à la fenêtre de sa chambre, écoutant, comme en rêve, l'amical bavardage de Mademoiselle Segui. Hélène avait sans peine deviné le secret d'Edda. La jeune fille aimait Goel, et elle souffrait de la discrétion de l'ingénieur, de la lenteur qu'il mettait à lui déclarer son amour. Mademoiselle Segui résolut d'accélérer la marche des événements et de rendre à sa chère Edda son sourire coutumier. Elle songea d'abord à s'adjoindre dans cette tâche M. Lepic, mais dès les premiers mots, le naturaliste se regimba. « Ah, j'y sais seul, mademoiselle, déclara-t-il nettement. N'entends rien, moi, ces subtiles questions de psychologie sentimentale. Je craindrais de commettre des impairs. De plus, les études que j'ai entreprises sur le venin de l'araignée malmigate, ce grand destructeur des sauterelles, ne me laissent pas un moment de loisir. » Le même jour, Hélène s'arrangea pour rencontrer Goel, comme par hasard, dans les environs du chantier de construction du Jules Verne. « Eh bien, lui demanda-t-elle gracieusement, où en êtes-vous, monsieur Vordax ?»« La semaine prochaine, répondit l'inventeur, nous procéderons au lancement du Jules Verne. Maintenant on distingue nettement la forme de votre navire. On dirait un œuf énorme, un œuf qui aurait 25 ou 30 mètres de long et qui serait d'un métal aussi brillant que l'argent. » Mon sous-marin est en nickel vanadier. Le nickel, presque aussi résistant que l'acier, mais près de moitié plus léger, pouvait seul me permettre de donner au Jules Verne cette épaisseur de coque formidable qui lui permettra d'atteindre les plus grandes profondeurs sans être aplati par les pressions considérables qu'il aura à supporter. Sans entrer dans des détails de chiffres, vous faites-vous une idée de la pesanteur d'une colonne d'eau de 100 mètres de haut, par exemple? Un navire ordinaire serait aplati, broyé, réduit à l'état de simple galette. Il me semble que j'aurais peur là-dedans. On doit courir de grands dangers. À bord du Jules Verne, la sécurité sera complète. Au moindre danger, le sous-marin regagnera la surface. Comment cela? Bien, en chassant l'eau des réservoirs d'immersion au moyen de l'air liquide, dont la détente gazeuse est d'une puissance considérable. Si, par suite d'avarie, cela ne suffisait pas, je puis encore alléger le sous-marin en le détachant du chariot métallique sur lequel il est monté, ce qui lui permet de courir sur le fond des mers à la façon d'une automobile. Oh, c'est merveilleux. Et comment vous dirigez-vous? À la surface, à l'aide de la vision directe par les hublots de la coupole d'observation, sous les flots à l'aide du combat, dont les erreurs sont corrigées par le gyroscope. Mais la vision sous l'eau étant limitée, comment prévenez-vous les collisions? Au moyen de vigies sous-marines. Oh, ce sont de petits appareils en forme de torpilles reliés au navire par deux câbles électriques. Il flotte à 200 mètres en avant. Rencontre-t-il un obstacle? Une sonnerie automatique les avertit du danger. Enfin, je peux savoir ce qui se passe à la surface de la mer, tout en restant immergé. Vraiment? Oui, au moyen du téléphote. Cet appareil fonctionne comme le téléphone, mais la membrane vibrante est remplacée par un miroir. Mon téléphote est enfermé dans un flotteur insubmersible qui, sans quitter la surface, accompagne le sous-marin dans sa course. Mais on sera horriblement mal dans votre bateau au milieu de tout ce bric-à-brac d'appareils. Non, point. On y respirera aussi facilement qu'à terre. L'acide carbonique et la vapeur d'eau seront absorbés par la potasse caustique. Des bonbonnes d'air liquide renouvelleront la provision d'oxygène et des sels avides d'azote s'empareront de l'excès de ce gaz. Ah, vous avez réponse à tout. Et l'éclairage? Il sera électrique. Les dynamos fourniront à la fois la force motrice et la lumière. Très bien, mais comment éclairerez-vous les travailleurs au fond de l'eau? Au moyen de lampes torpilles flottantes, immergées entre deux eaux et reliées au sous-marin. Elles éclaireront la mer sur un espace d'un mille carré. Enfin, un énorme fanal, situé sous la coque du navire, éclairera le fond qui, formant écran, réfléchira les faisceaux lumineux. Les scaphandriers y verront aussi clair qu'en plein jour. Ah, parfait. Mais ces hommes seront d'autant plus exposés aux attaques des monstres que ceux-ci les verront mieux. C'est vrai, oui, mais les gros poissons et les cétacés seront repoussés à coups de canon. Comment, un canon sous l'eau? Un canon à poudre? Mais oui, mademoiselle. Un clapet, s'ouvrant au moyen d'un déclenchement automatique, est disposé à la bouche du canon. Alors vous pourrez recueillir les riches épaves? Rien de plus facile. Vous voulez rire? Non, je suis au contraire très sérieux. Au moyen de cisailles, de pinces et de tenailles automatiques, on disloque l'épave, puis on fixe à chaque fragment, au moyen d'une ventouse, un sac de caoutchouc à parois épaisses, qu'un flacon d'air liquide gonfle instantanément. On abandonne le tout et le sac remonte à la surface. Là, un navire recueille l'épave. Très ingénieux. Mais pour sortir du sous-marin immergé, comment faites-vous? J'ai disposé une chambre de plonge. Les scaphandriers y pénètrent et on les y enferme. Puis cette chambre est lentement remplie d'eau. On ouvre la porte extérieure et voilà tout. Et voilà tout. Vous êtes charmant. On dirait que c'est tout simple. Dame. Et Goël continua avec l'enthousiasme de tout créateur pour son œuvre la description du Jules Verne. Mademoiselle Segui ne l'écoutait plus que distraitement. Elle n'était pas venue pour interroger l'ingénieur sur le sous-marin. Elle avait hâte de changer le sujet de la conversation. Mais l'ingénieur n'en finissait pas. Il s'étendait complaisamment sur les détails les plus futiles. La jeune fille s'impatientait. Brusquement, elle interrompit Goël. « Avez-vous remarqué, demanda-t-elle, combien Edda est changée depuis quelque temps ?»« Oui, oui, en effet, mais que peut-elle avoir ?»« Comment, c'est vous qui me demandez cela ?»« Mais, vous ne cherchez pas à vous défendre. Laisserez-vous souffrir plus longtemps une jeune fille qui vous aime et que... »« Eh mon Dieu !» s'écria Goël, « elle-même ?» Et vous l'aimez aussi. Oh, mais si Edda n'avait pas ses millions, il y a longtemps je me serais déclaré. Ses millions, reprit Hélène, mais elle est la première à regretter d'être si riche. Oh, les coureurs de notes ne lui ont pas manqué. Elle les a tous évincés. Si je vous disais que parmi les concurrents, beaucoup comptant plus sur leur belle mine que sur leur talent, lui ont envoyé leurs photographies. « Croyez-vous, mademoiselle, interrompit Gaël, que mon succès dans le concours Ström soit pour quelque chose dans l'affection que me porte mademoiselle Edda ?»« Oh, monsieur Mordax, mais Edda a surtout apprécié en vous votre loyauté, votre franchise, votre mérite personnel, et surtout votre désintéressement. Vous absent, elle est triste et inquiète. » Mais au repas le soir au salon, avec quel ravissement elle vous écoute. Allez de grâce, n'attendez pas plus longtemps pour lui avouer franchement votre amour. Goël était embarrassé. Les révélations de mademoiselle Segui le troublaient délicieusement. Il allait répondre à la jeune fille lorsque la voix d'Edda se fit entendre. Eh bien, demanda-t-elle souriante, qu'est-ce que vous complotez là, tous les deux ? Nous complotions ton bonheur, répondit mademoiselle Segui. Edda rougit, elle n'osait regarder Goël, qui se tenant devant elle, étonné de la franchise de mademoiselle Segui. Mais oui, votre bonheur à tous deux, continua Hélène, en poussant les deux jeunes gens l'un vers l'autre. Très émus, Edda et Goël se tenaient par la main et se regardaient sans mot dire. Le visage rayonnant de Goël disait assez clairement ses sentiments. Hélène, à quelques pas de là, contemplait cette scène en souriant. Eh bien !» gronda tout à coup la grosse voix du Lammström. « Je vous y prends, les amoureux !» Au lieu de rester à vous regarder, vous feriez mieux de vous embrasser. C'est comme ça que ça se passe en Norvège. Bien que surpris par la soudaine arrivée d'Ursenström, Goël n'avait pas quitté la main d'Edda. Monsieur, dit-il en s'avançant vers le milliardaire, j'ai l'honneur de vous demander. C'est une affaire entendue, fit en riant Ursenström. « Pas tant d'étiquettes, vous vous convenez, c'est parfait, cela vous regarde. » Puis, changeant brusquement de ton, « Mes chers enfants, ajouta-t-il en attirant les deux jeunes gens contre sa poitrine, recevez la bénédiction de votre père. » Il les embrassa tous deux. Et se tournant vers mademoiselle Segui, dont les yeux étaient humides de larmes, « Vous mériteriez, mademoiselle, d'être sévèrement grondée. » La remontrance se termina dans un chorus d'éclats de rire.